c'était la gestion intégrée des risques naturels, des hommes, des territoires et des risques. Donc, ce qu'on retient, nous, en tant que chargé de mission, et ce qu'on... Enfin, quand on nous demande d'expliquer ce que c'est que la gestion intégrée des risques naturels, on retient vraiment trois thèmes et qu'on je souhaite partager. Le premier, comme ça a été très bien dit dans le film, c'est le décloisonnement des acteurs et des territoires. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que c'était beaucoup de choses qui étaient cloisonnées, chacun faisait dans son coin. Le but, là, c'était vraiment d'ouvrir et qu'il y ait vraiment un décloisonnement. Des territoires, bah, c'en est la preuve aujourd'hui, sur deux territoires concernés par des mêmes thématiques, mais qui travaillent quand même ensemble, le Briançonnais et la Maurienne, par exemple. Après, c'est l'intérêt de la gestion intégrée aussi, c'est qu'on va s'intéresser vraiment à vos problématiques en tant que commune. C'est-à-dire avec, en mettant des actions qui soient adaptées à vos problématiques à vous, mais qui soient aussi adaptées à vos capacités de mise en œuvre, que ça soit humaine, matérielle ou économique. Et voilà, c'est essentiellement les points qu'on va retenir pour la gestion intégrée. Maintenant, je vais me retourner donc vers Georges Pouchot, ancien maire de Névache, qui donc a bien vécu des actions de gestion intégrée des risques naturels, puisqu'il y a eu en 2011 une semaine participative sur la gestion des risques naturels en montagne, qui visait à faire travailler tous les acteurs de la gestion de crise, des institutionnels à la population en passant par les socioprofessionnels et autres, à travailler donc sur la culture et la mémoire du risque dans leur, sur la commune de Névache. Juste pour rappel, la commune de Névache, la problématique en matière de risque, c'est pas tant qu'il y ait des habitations ou autres qui soient vraiment concernées par les risques, c'est surtout qu'ils se retrouvent avec une problématique d'isolement, où ils se sont retrouvés isolés, par exemple, en 2008 pendant 4 jours. En 2011, pendant de nouveau 2 jours. Voilà, dans les derniers événements. Alors, vous qui avez vécu ça, vous qui avez expérimenté cette démarche, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, ben, d'abord, je voudrais dire à Bandine qu'on avait commencé par les travaux pratiques. Et lui, en mars 2008, c'était les inondations en mai 2008, avec là, tout un tas de problématiques qui n'étaient absolument pas réglées, parce qu'on ne découvrait pas. Nous, on découvrait, mais beaucoup avaient déjà connu ça et avaient leur idée. Donc déjà, on nous disait comment il fallait faire, mais on voyait qu'on n'avait aucune solution pérenne. Et puis alors, décembre 2008, c'est des avalanches qui sont dues à une accumulation de neige rapide, avec un petit incident assez cocasse, c'est qu'on avait dans la commune à ce moment-là, le directeur à la préfecture des services de la protection civile.
Le chef de service,
M. Dao. Donc, qui s'est trouvé comme nous pris. On avait une vingtaine de personnes sur la commune qui ne pouvaient pas quitter la commune. On avait une personne qui avait besoin de soins en dialyse qui était lui aussi prisonnier sur la commune. Et on s'est aperçu, alors là on a fait tout un tas de constatations, c'était 2008, on allait vers les fêtes, tout le monde souhaitait qu'on trouve une solution avant le 25 décembre, hein, parce que même s'il y a neige en novembre, le 25 décembre, on sait ce qu'il y a. Et donc, quand on a rouvert la route, plus personne voulait quasiment entendre parler de tout ça. On était, nous, avec tout un tas d'observations, en disant, mais ça on pourrait y remédier, voilà peut-être ce qu'il faut faire, voilà peut-être... là on pourrait trouver une solution et donc on a profité de cette mission du GIRM pour essayer de voir comment on pouvait faire une gestion intégrée avec une idée dans la tête, c'est que ce soit reproductible, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas travailler pour nous-mêmes mais on voulait que ce qui allait se faire en Vallée de la Clarée et à Névache de Tabac ça puisse être reproduit, ça puisse servir à d'autres de modèles et autres. Donc, Amandine, je me retourne vers elle puisque ça a été la cheville ouvrière, s'est attelée à la tâche. On a tenté, je dis bien on a tenté parce que ça ne s'est pas fait en un coup de baguette magique, de faire participer la population. Et en 2011, on est arrivé à une semaine participative, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'ensemble de la population de venir évaluer leurs risques. Pour ça, il y a eu des maquettes qui ont été faites. Des maquettes assez représentatives de la commune qui ont été faites, où les enjeux, chaque fois où il y avait des enjeux On a essayé de déterminer, on a demandé à la population de venir, à la fois ce qu'on voit sur le film, placer une petite punaise à l'emplacement de leur maison, voir s'ils se sentaient seuls, s'ils se sentaient reliés à d'autres, voir comment on pouvait s'occuper des voisins, voir comment on pouvait s'occuper des personnes qui étaient encore plus vulnérables que soi. Bon, il y a eu une bonne participation, je veux dire. Alors après, les idées ont fusé, on est allé jusqu'à parler de créer une réserve communale. Bon, ça a pas, on n'a pas été suivi, je dirais. On a eu un petit veto là, de la part du SDIS, du moins d'une partie du SDIS, qui ne souhaitait pas qu'on fasse une milice du maire. C'est ce qui nous a été dit. Bien, donc derrière, j'avoue que aujourd'hui, ma crainte aujourd'hui, 3 ans après, c'est que ça soit bien retombé jusqu'à un nouvel événement. Et c'est pas facile d'associer la population dans un premier temps, mais c'est encore moins facile, je pense, de la tenir en alerte sur des problèmes qui sont des problèmes récurrents et qui ne manqueront pas un jour ou l'autre de se reproduire. On avait, en 2008, on avait isolé un hameau important. Et on en a tiré la conclusion qu'on avait un peu de chance, c'est qu'il n'y ait pas par-dessus les 2 avalanches qui isolaient ce hameau, un incendie ou quelque chose, parce que personne n'était foutu de porter secours aux gens du hameau. Et comme on connaît l'habitat groupé des Hautes-Alpes, on aurait fait là quand même quelque chose, il y aurait eu un sinistre qui allait être d'une certaine gravité. Aujourd'hui, force est de constater, et je le dis d'autant plus que je m'occupe plus de rien, rien n'est réglé. Pourtant, des idées, il y en a eu. Il y en a eu des chères, des pas chères, des moins chères, des prenantes, des faciles, des moins faciles. On n'en parle plus. La neige a fondu depuis. Donc, on n'en parle plus, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le regret. J'ai écouté les propos de mon collègue de Valoir, là. Je les partage pleinement. C'est déjà pas facile d'associer la population, mais si derrière on fait pas ce qu'il faut pour qu'il y ait du durable, je crois que c'est peu crédible. Alors aussi, il faut dire que ça va à contre-courant de toutes les pratiques locales, parce que dans les cas d'avalanche, c'est pas la première fois qu'il y a une avalanche à Nevache, bien évidemment, en 2008, mais tout le monde a sa façon d'appréhender l'avalanche. Des gens nous ont dit, mais moi je suis allé 20 ans au boulot, il y avait des avalanches. Je tenais le fil téléphonique, puis je traversais l'avalanche. D'autres se faisaient accompagner d'un côté, reprendre de l'autre côté de l'avalanche. D'autres avaient trouvé un chemin détourné. Voilà, tout le monde a sa petite combine pour en fin de compte se mettre un peu à l'abri de la vulnérabilité dont il est victime à ce moment-là. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas, je le dis avec beaucoup de regret, on y a mis beaucoup d'énergie. Je remercie encore Amandine, je remercie la mission du GIR, le pays du Grand Briançonnais, toute l'aide qu'il nous a apportée. Mais j'ai peur qu'on ait laissé un peu retomber les choses. Voilà.
Et alors, du coup, en tant que vous élu, est-ce que la GIR, alors vous avez dit que ça a apporté tout ça, mais il y a eu des résultats quand même de cette semaine participative. Est-ce qu'on a quand même réussi à capitaliser? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même eu un résultat de capitalisation qui vous ont servi en tant qu'élu et en tant que commune?
Oui, alors je dirais qu'après après beaucoup d'énergie dépensée, effectivement, il y avait une écoute. Il y avait une écoute et les gens se sont dit, on peut peut-être faire autre chose, on peut peut-être en arriver à certaines choses. Je prends le cas de mon hameau. Il y en a qui ont dit, mais on est capable, nous, de faire des premiers secours, de mettre des lances en batterie, des choses comme ça. La population était partie prenante. Partie prenante à condition que derrière, on l'aide, on la suive. Voilà, c'est ce côté-là. Aujourd'hui, je pense que c'est pas perdu. Je parle pour cette expérience, c'est pas perdu. Mais il faut la reprendre, il faut qu'elle continue vite. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est qu'à Nevache, on n'en a pas parlé, là, ça apparaît pas dans le film. La route qui est impactée, c'est une route départementale et qui est soumise à un plan de déclenchement d'avalanche. C'est-à-dire qu'elle est sous la responsabilité du président du conseil général et les PIDA se font uniquement avec l'accord du maire. C'est-à-dire que le conseil général nous appelle, il y a un nivologue qui dit, ben voilà, le risque, il est maximum, il faudrait qu'on mette en œuvre un PIDA, et si vous êtes d'accord, on le met, si vous n'êtes pas d'accord, on ne le met pas. Alors vous, déjà, vous n'avez pas l'information, vous dites qu'il faut le mettre en œuvre, donc on va le mettre en œuvre. Et puis, le temps où on le met en œuvre, il n'y a pas l'hélico, le temps change, donc on a décidé qu'on allait mettre en route un PIDA, ça veut dire qu'on a une fermeture de route, ça arrive aussi, sans que rien ne se passe, on ferme administrativement la route. Alors là, c'est... Là, je veux dire, c'est comme si on mettait le feu au village. Hein. On a beaucoup de socioprofessionnels qui vivent du tourisme. On a eu le cas où des cars, c'était un chassé-croisé de vacances, des cars ont été bloqués à Briançon. On ne savait plus quoi faire des gens. Enfin, nous, on était de notre côté, on ne pouvait pas descendre, même leur dire bonjour. Mais madame la sous-préfète qui était là à l'époque à Briançon, faisait des cheveux blancs, elle avait une pression pour que ces cars puissent passer. La route était, je vais dire, normale, sachant que le risque était maximum. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Parce que tout à l'heure on parlait d'image, on en a parlé tardivement dans le premier débat, mais l'image touristique de la vallée de la Clarée, s'il y a deux cars qui sont pris sous une avalanche, je pense qu'elle en prendra un sacré coup. Donc, là, il y a beaucoup d'acteurs, à la fois économiques, à la fois des particuliers, à arriver à mettre en phase. Et c'est ce qu'on avait un peu fait, quand même. Ça avait donné du poids. Alors, tout le monde a son idée aussi. Pourquoi on ne fait pas de paravalanche? On a parlé tout à l'heure des coûts économiques. Là, je crois que la réponse est là. On nous dit qu'une année de PIDA, ça correspond à peu près à 1 mètre de protection, le coût annuel du PIDA. Or, la protection, ça serait au bas mot entre 150 et 200 mètres. Donc, deux siècles de PIDA ne paieront pas les équipements de protection, et je ne parle pas de l'entretien en plus qu'il y a derrière. Donc, voilà. Mais ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à débattre sereinement, je dirais, hors de toutes ces périodes, parce que là, le débat, il est violent, hein, quand on ferme la route 3-4 jours. Et il y a des périodes, ça a été le cas en 2011, si je ne me trompe pas, on a fermé 3 jours, et en plus, ça avait deux lignes, il y avait deux lignes électriques impactées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de courant dans la commune. Là, je vous garantis, on se fait petit. Mais on reste présent.
Très bien, merci. Je laisse la parole à Marjorie pour la suite du débat. Alors, est-ce que vous avez, voilà, pour des raisons, des impératifs de route, Maurice Dufour et Georges Couchot doivent partir. Est-ce que vous avez des questions à leur poser là, sur ces, par intervention?
Des réactions, sinon?
Pas très bien. Merci encore d'être venu.
Merci
à vous. Merci. Alors, du coup, moi, je vais me retourner vers Valoire. Alors déjà, je tiens à remercier grandement Michel Yannick, qui a bien voulu répondre présent. Ça montre d'ailleurs, ça témoigne de sa motivation, en tout cas, et son investissement dans la Girne, car il a beaucoup fait pour la commune de Valoire à ce niveau-là. Du coup, j'en profite pour le remercier. Donc, Michel Vialet, alors vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez en vrai là maintenant, vous l'avez vu tout à l'heure dans le petit film. Alors, Michel Vialet, c'est la bonne personne pour vous raconter un petit peu dans quel contexte a été mis en place cette Girne à Valoire. Donc, il va nous rappeler un petit peu le contexte Oui, ça a commencé il y a quelques années déjà. Et il va nous donner aussi quelques éléments, il va nous dire un petit peu de son regard d'élu de l'époque, ce que la Girne a apporté comme élément de réponse, comme solution. Voilà, donc on vous écoute.
Oui, quand on nous a annoncé ça, on s'est dit, qu'est-ce que c'est encore ce truc? C'est des subventions européennes, c'est encore une usine à gaz, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis en faisant le tour, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Ça aura peut-être l'occasion un peu de se remettre en question et de faire le tour un peu de la commune, d'envisager un peu les situations de risque où l'on va être confronté. Alors, malheureusement, il y avait le choix, il y avait les chutes de pierre, il y avait la neige, il y avait les inondations. Alors, bon, les chutes de pierre, ça tombe, c'est très aléatoire, c'est très difficile. La neige, on en a de moins en moins, donc c'est plus facile quand même à gérer. Peut-être que quand elle tombe en paquet, mais ça ne dure pas longtemps, et ça se fait doucement. Donc on a le temps quand même de s'en arriver. Et puis, entre ces temps de réflexion, on s'est payé une inondation qui a duré une semaine, une période. Elle a commencé au printemps, et puis ça a duré, et le fait, c'était pas très très violent, mais c'est la durée qui a posé les problèmes. Alors, on s'est dit, bon, on va se orienter sur les inondations, parce que là, c'est soudain, on l'a vu dans le film, M. Giraud le disait, et les crues torrentielles, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un orage, un quart d'heure après, on a une nappe torrentielle qui arrive, et personne n'est prêt à faire face. Donc, ça se prépare avant. Et ça a été cette occasion, un peu, qui nous a décidé à faire partie de cette expérience du GIRD. Et puis, entre-temps, on avait aussi le PCS. À ce moment-là, les PCS, c'était vraiment les premières communes qui le mettaient en place. On a dit ça va peut-être faire l'occasion de faire des pierres deux coups. On va peut-être leur demander aussi de nous aider dans l'élaboration de ce PCS, et en même temps on va essayer d'inventer l'eau chaude, parce que ce qui se passait aussi, c'est que on avait l'impression de prendre les anciens pour des cons. C'est-à-dire que les anciens, ça fait longtemps qu'ils gèrent aussi les problèmes d'inondation. C'est pas la première fois. Il y a plein de photos des anciens qui montrent que toute la vallée de Baloire était... le torrent se baladait un peu de tous les côtés. Alors, bon, c'était l'occasion un peu de se lancer là-dedans et puis d'envisager un peu ce qui s'allait voir un peu quoi. What and see. On s'est dit, on va voir si ça marche. On va continuer avec et puis on verra bien ce que ça nous apporte.
Oui, alors la Gierne, pour information, a permis de mettre en place deux grandes actions, on va dire, majeures. Alors, on a privilégié, en tout cas à la demande de la commune et des partenaires gestionnaires des risques, on a privilégié le dialogue, retrouver du dialogue entre les services. Alors ça se concrétise comment? Ça se concrétise par l'organisation d'une réunion annuelle qu'on a appelée le comité de gestion et de suivi des risques naturels, qui regroupe bien évidemment les élus de la commune, mais aussi la SEM, la RTM, j'en oublie, c'est sur le TDL. Enfin voilà, il y a un large panel d'acteurs autour de la table qui se réunit annuellement à minima et se réunit aussi exceptionnel en cas d'événement majeur. Donc ça s'est produit plusieurs fois, ça fonctionne plutôt assez bien. Et c'est l'occasion de se dire les choses, de se dire, ben là, on prévoit des travaux, là, on a tel aménagement prévu, on a tel souci, et ils se rendent compte qu'en fait, l'intervention de l'un a un impact sur tous les autres. Et du coup, cette instance permet vraiment de remettre du lien dans tout ça et améliore la cohésion, en fait, et la coordination entre les différents services. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit quelque chose là-dessus.
Oui, alors là, j'insisterai très fortement là-dessus, parce qu'en général, quand on veut y arriver à la police de l'eau, c'est quand on a fait une grosse. Donc, c'était très, très tendu, et on était menacés, et nous, on était repliés, dressés dans nos ergots, en disant, ça y est, on va dérouiller, ils nous commencent à nous emmerder, cela. Bon, c'était toujours tendu, très conflictuel. Et puis, ce qui a fait que petit à petit, on a appris à se connaître. Ils ont leurs problèmes. Donc, on a compris un peu quels étaient leurs problèmes. Et puis, eux, on a pu expliquer aussi les nôtres. Ce qui fait qu'au bout de quelques temps, on discutait d'une façon constructive. Et de donner les clés pour monter nos dossiers, pour faire une approche d'une opération. Et nous, on leur expliquait aussi qu'on ne pouvait pas tout faire. Et il y a le problème, il y a quand même des idéologies dans tout ça. C'est que maintenant, on dit la rivière, il faut qu'elle se repose. Là, je vais vous faire bondir. Mais dans une vallée de montagne, la rivière, elle ne peut pas se reposer très longtemps parce qu'elle va d'un côté à l'autre et elle revient toujours au milieu. Alors on l'a canalisée, on retrouve aussi ce qu'on disait, là, on a fait des digues, des protections, sentiment de sécurité. Les habitants ont construit, on n'a pas eu d'inondation pendant quelques temps, donc on oublie vite, surtout quand on veut oublier. Il y a une pression de construction qui est très forte. Donc, et on ne peut pas construire n'importe où, entre les avalanches, les chutes de pierre et puis aussi les inondations. Ce qui fait que pendant quelques années, les gens ont construit de plus en plus à côté d'un rivière. Et quand il y a une crue, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui ont ces constructions se retournent sur la commune. Et qu'est-ce que vous faites? Et ça va très vite. Donc, ça nous a permis aussi d'envisager après comment opérer et surtout en amont. Alors, c'est bien de laisser courir la rivière, de la laisser se reposer. Le seul problème, quand elle se repose, eh ben, elle dépose les alluvions qu'elle transporte. Et comme il ne faut pas toucher le lit majeur du torrent, ben, petit à petit, le lit monte, et puis la rivière ben, elle se balade de plus en plus. Et les habitants de la commune disent « Mais qu'est-ce que vous foutez ?» Parce que de plus en plus, on voit le lit, l'eau qui coule de plus en plus haut, et les protections qui ont été mises en place ça ne servent plus à rien. Et on ne peut pas aller gratter dans la rivière, curer, et qu'est-ce qu'on fait des matériaux, où est-ce qu'on les met, et ainsi de suite. Donc, on s'est orienté un peu dans cette direction en disant, bon, la première des choses maintenant, c'est qu'il va falloir commencer à curer. Parce qu'on a les pêcheurs, malheureusement pour certains, la vie du poisson est plus importante que la vie des habitants. Donc, on a dit, on va curer de façon à ce qu'on n'ait pas ce lit qui monte et puis ça se promène de n'importe où. Alors, on a envisagé, bien sûr, de curer. À quel moment on allait curer? Et au lieu de rentrer dans des procédures d'autorisation, on voulait passer en procédure de déclaration. Ça va plus vite. Donc, on a des zones, maintenant, où on peut aller curer à partir d'un certain niveau. Alors, le tout, c'était de trouver ces zones où on pouvait aller et quels étaient les indices qui marquerait à quel moment on peut y aller ou on repasse dans le régime d'autorisation. Alors ça se met en place, parce que le problème, quand il y a une avalanche, mettre des indices, c'est une chose, mais quand on tombe dans des inondations, eh ben, il faut que ces indices restent en place. Et c'est pas évident de mettre un indice dans un torrent et qu'il ne bouge pas quand il y a une inondation. On y arrive tout doucement, et aussi après, revalorisation des matériaux qu'on en extrait. C'est pas tout de récupérer des matériaux. Où est-ce qu'on les met?
Oui, alors Valoir a fait déjà un petit bout de chemin. Il en reste encore à faire. Tout n'est pas gagné, loin de là. Les phénomènes étant récurrents, il y a de quoi faire. Et j'ai oublié de dire, effectivement, les services de l'État sont bien évidemment présents dans ces instances de dialogue. Les relations se sont plutôt détendues et je pense qu'il y a encore matière à faire aussi essayer de concilier au mieux les choses entre les réalités de terrain et puis les réglementations qui sont là et qui sont bien évidemment imposées.
On a essayé de coordonner aussi, c'est que quand on a une inondation, il faut mettre des blocs pour empêcher le torrent d'aller se balader, parce qu'on limite. On nous reproche souvent, c'est de mettre les pelles dans la rivière. Voilà. Ça, ils ont horreur de ça. On a fait un film, un petit film sur toutes les inondations qui a eu, les événements qui a eu lieu dans le village, pour avoir un peu une vision. Et ce qu'on m'a dit, on voit tout le temps des pelles dans la rivière. Mais si on met des pelles dans la rivière, c'est pas parce qu'on a envie de les mettre, c'est qu'on veut limiter les dégâts. Parce que quand la crue est terminée, il faut réparer. Et moins il y a de dégâts, plus c'est facile de la réparer. Et on met les engins dans la rivière pour pouvoir protéger et empêcher que ça aille plus loin. Et il faut des blocs. Alors du coup, on a passé un accord avec le service des pistes. Quand ils font des travaux sur les pistes, dès qu'ils trouvent des blocs, ils les mettent de côté. et on les stocke tout du long des coins différents dans la vallée, parce que quand un torrent passe dans une vallée qui a une inondation, il n'est plus question de traverser. Ça me fait toujours bondir quand je vois des gens, on l'a vu tout à l'heure, des gars qui étaient aspergés par la boue sur le pont, et on voit encore sur les actualités télévisées, dès qu'il y a une inondation, on les voit tous planter sur les ponts, mais ils sont malades. Ils sont malades, ces gens-là.
Ça prouve l'inconscience et le manque d'information, surtout des populations. Et il y a un gros travail à faire là-dessus, sur comment informer au mieux les populations par rapport à ça. Parce que voilà, des comportements à risque, il y en a, et il y en aura tant qu'on ne fera pas de la prévention. Et ça, c'est un des volets qui peut être mis en place dans le cadre de l'AGIR, bien évidemment.
Oui, alors on a occulté un peu la différence de merde des vaches, l'information aux habitants. On a plus agi, parce qu'on a eu quelques inondations. Je pense que les gens étaient informés à ce moment-là. On n'avait même pas besoin de faire de l'exercice. Ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, pourquoi on a mis des blocs un peu partout? C'est pour avoir les accès et limiter les dégâts. Voilà.
Merci Michel Yallet. Peut-être que le maire de Valoir souhaite intervenir.
Écoutez, moi, je ne vais pas vous dire des choses très très intéressantes. Je vais simplement vous expliquer que je suis néophyte, humblement. Je suis un nouvel élu. Et là, quand on prend une mairie, c'est déjà pas facile. Le panel des activités est très éclectique dans une mairie normale. Dans une mairie de montagne, on se rend compte qu'il y a encore quelque chose qui vient gréver la besace, c'est-à-dire c'est tous ces risques naturels. Moi, la journée que je passe ici, elle est extrêmement intéressante parce que j'étais déjà bien imprégné du problème quand même des risques naturels. Je remercie d'ailleurs Michel Vialet qui, bien que n'ayant pas fait partie de ma liste, accepte gentiment de nous accompagner aujourd'hui et accepte encore au sein de la commune de faire partie de la fiche des secouristes et de la commission de sécurité. Donc cette journée, elle est très très intéressante pour moi parce qu'elle me permet déjà de mettre des visages sur des noms et de prendre des contacts humains avec des services auxquels on va être appelé à travailler ensemble. Je crois que ça, c'est extrêmement très important que les services de l'État sachent à qui ils ont affaire, quel est leur interlocuteur, quelle est leur volonté, quelles sont leurs ambitions, leurs souhaits et jusqu'où ils vont. Donc, je pense que il faut évidemment qu'on ait une grande correction entre nous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de dominant ni de dominé. Vous avez la science, nous, on a le pouvoir politique, il faut qu'on agisse ensemble. Et n'oubliez pas surtout qu'on n'a pas beaucoup de finances. Et ça, c'est quand même important parce que c'est facile de prendre des décisions, mais quand on n'a pas beaucoup de finances, ça complique un peu le problème. Voilà.
Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au... Vous l'avez évoqué, la question du PCS, et on en a beaucoup parlé avec les deux premiers intervenants. Ce que la gestion intégrée peut permettre aussi, donc c'est pas de réaliser un PCS, puisque ça, c'est de l'ordre du régalien, donc ce n'est pas dans le cadre de la gestion intégrée qu'on peut le travailler. En revanche, nous avons beaucoup d'outils qui nous permettent de venir aider. Donc, par exemple, sur la semaine participative qui a eu lieu dans la vallée de la Clarée, les résultats de la semaine participative ont permis d'implémenter un PCS pour que celui-ci soit vraiment opérationnel, avec toutes les spécificités qu'on peut avoir dans les communes de montagne, et notamment un Évache, où, comme vous le savez sans doute, ils ont une partie de leur territoire qui est basée sur l'Italie, avec la vallée étroite. Avec l'hiver, l'isolement de cette vallée, où il faut passer par le col du Mont-Genève pour aller de Névache chef-lieu à la vallée étroite, il faut à peu près une heure et quart de route. Donc la gestion intégrée peut vous permettre, au travers d'actions parallèles, de récupérer une masse d'informations intéressantes et importantes qui vous permettront d'implémenter votre PCS, que de toute façon, réglementairement, elle doit être réalisée. Voilà.
Ouais, juste un petit complément d'information. L'AGIR intervient à tout stade, en fait, à tous les stades de la gestion des risques, que ce soit en phase pré-crise, mais en gestion de crise, et mais aussi en post-crise. Donc ça laisse un large champ d'action à entreprendre sur ces différents stades, en fait. Pour revenir, il y a d'autres territoires qui ne sont pas intégrés en tant que tels dans l'opération de gestion intégrée des risques naturels, mais qui mènent des actions qui ressemblent, en tout cas qui s'y apparentent grandement. C'est le cas de la commune de Chamonix, qui est parmi nous et qui a bien voulu venir se déplacer jusqu'à nous aujourd'hui. Donc déjà, merci. Chamonix, donc, qui est commune hautement à l'image touristique exemplaire, qui mène des actions de gestion particulièrement intéressantes, de gestion, mais aussi des actions en termes de communication. Chamonix ose communiquer sur les risques naturels envers sa population, population locale et touristique. Donc ils vont nous faire un petit retour, un petit témoignage va être intéressant à écouter. Donc je vous laisse la parole, merci.
Oui, bonjour à tous. Quelques mots d'introduction déjà. Chamonix, le risque fait partie de sa culture. Depuis très très longtemps, Chamonix a des problèmes par rapport au risque naturel et ça fait partie de notre culture, on l'a intégré. Malheureusement ou heureusement, ces risques naturels ne sont pas toujours intégrés par les autres personnes qui viennent dans notre vallée et parfois on passe de 10 000 habitants à 60 000 l'hiver et 120 000 l'été. Donc il faut vraiment l'intégrer et un risque nouveau qui est apparu, c'est le risque de débordement torrentiel qu'on n'avait pas. Et c'est à cause du réchauffement de la Terre, à cause de ce réchauffement, de changement climatique, qu'on arrive à ces risques, à ces nouveaux risques. Donc je vais aller très vite sur la première partie, on fait un listing et on revoit un petit peu tous les risques qui existent dans la vallée de Chamonix. On l'a vu à travers le très bon film de tout à l'heure. Donc ce sont les risques que l'on trouve dans la vallée de Chamonix. Je développe ça dans d'autres circonstances, mais ça a été fait et plusieurs fois fait. Donc c'est pas la peine, on va avancer assez vite. Voilà, depuis 99, l'avalanche de Mont-Roc, on a changé la façon de gérer la vallée de Chamonix. On a vu tout à l'heure le Tacona, tu peux revenir en arrière. Tacona, vous voyez là, c'est l'avalanche de Tacona. Regardez bien, tout à l'heure, je vous ferai voir le paravalanche de Tacona tel qu'il est aujourd'hui. On pensait que ces lames déflectrices pouvaient subir des pressions énormes et vous voyez qu'elles se sont fait arracher, peler. Et on en a eu plusieurs qui étaient dans cette situation-là. Vous voyez la force à laquelle peuvent arriver les avalanches. Là, on a une avalanche de neige, mais également de blocs de sérac et de rochers. Là, ce sont différentes avalanches que l'on a eues. Hein, c'est l'historique de nos avalanches. Et puis là, c'est 99, l'avalanche de Mont-Roc, Pécleret, où on a 17 chalets qui sont détruits et 12 morts. À partir de là, tout change. L'avalanche de Pécleret est partie de tout en haut, de toute la montagne en haut. On la connaissait, cette avalanche, mais elle ne passait pas le ressaut, elle restait en haut, ou elle partait depuis le bas. Mais jamais, à notre connaissance, elle était passée jusqu'en bas depuis le haut. Donc là, tout change à partir de 1999. C'est le PPR, c'est les nouvelles lois qui arrivent par rapport à la gestion des risques, le PCS aussi qui vient se mettre en place. Là, ce sont différentes avalanches dans le secteur de Tacona. Vous voyez une très grosse avalanche là qui est impressionnante, mais c'est une avalanche qui est vide, dans laquelle il n'y a pas de pression, c'est juste, c'est ce qu'on appelle le QI chez nous, c'est une avalanche c'est un nuage. Alors, un phénomène nouveau avec le réchauffement de la Terre, le changement climatique, on a des avalanches maintenant estivales, on va aller vite parce que ça je le développe quand je présente cette problématique avec les gendarmes ou les pompiers. Ce sont des avalanches qui se déclenchent soit par des séracs l'été quand les gens vont au Mont Blanc, là c'est le secteur du Mont Blanc et on a quand même beaucoup de morts dans ces secteurs là voilà un autre secteur, Mont Blanc du Tacul, tout à l'heure c'était le Mont Maudit, maintenant c'est le Mont Blanc du Tacul, dans lequel on a ce type d'avalanche avec plusieurs morts à chaque fois, pas mal de victimes. Là, une avalanche où on n'a pas eu de victimes, mais quelques mois plus tard, l'année d'après, on a eu une avalanche où un guide s'est fait emporter, ses deux clients se sont fait tuer dans le même secteur, même type d'avalanche. Alors aussi, on a les inondations. Les inondations, j'expliquerai dans le cadre de la commission de sécurité, on a des inondations qui arrivent beaucoup plus vite qu'avant et donc beaucoup plus fréquentes. Donc là aussi, on a l'obligation de mettre en place certaines choses par rapport à la gestion de la vallée. Là, on a vu beaucoup d'images, donc c'est pas la peine. On a aussi des glissements de terrain, des éboulements. Là, c'est le train du Mont-en-Vert. qu'on a été obligé d'arrêter pendant une période pour faire exploser certaines parties qui étaient au-dessus et qui menaçaient. Là, ce sont des sentiers qui sont impactés par les éboulements. L'avalanche des Drues, très très grosse avalanche. Le nuage est venu jusqu'en bas de la vallée. Et puis on a des glissements de terrain aussi dans le cadre des POSEC, où on a fait des aménagements avec le syndicat d'aménagement de l'Arve. Des tempêtes, des énormes tempêtes aussi qui ravagent les forêts, qui peuvent impacter aussi les routes et les habitations. Un autre événement majeur dans notre vallée, malheureusement, qu'on a vécu, mais vous avez été concerné aussi dans le secteur, enfin pas concerné par le drame, mais concerné par notre drame à un moment, quand le tunnel du Mont-Blanc a été fermé, où là on a eu ce grand drame dans ce tunnel, où les camions ont été reportés sur le Fréjus à cette époque-là. Alors, pour gérer toute cette problématique risque naturel, bien évidemment, pour l'hiver, on a la CLPA, c'est la carte dont on a parlé tout à l'heure, les PPR. On a expliqué ce qu'était un PPR. Voilà notre carte réglementaire, donc la carte des aléas que sur laquelle on travaille, la carte réglementaire. Le PPR a été révisé a été approuvé par le préfet en 2010, et il a duré pendant 10 ans. Tout à l'heure, on l'évoquait tout à l'heure, il faut presque 10 ans pour faire un PPR. On est resté pendant 4 années à gérer les risques avec un PPR qui n'était pas approuvé. Mais comme l'a très bien dit l'avocat, quand on a connaissance d'un risque, on a l'obligation d'en tenir compte et de l'intégrer dans notre gestion. Donc à partir du moment où on a connaissance, même s'il n'a pas été approuvé, on l'intègre et on l'a dans le cadre du PCS. On l'intègre dans le cadre du PCS. Un nouveau problème qui va arriver, qui va vous arriver aussi, Chamonix est toujours un petit peu zone test. La zone jaune dont vous avez entendu parler, cette zone jaune était une zone de police du maire, dans laquelle le maire devait mettre en place des moyens d'information, de prévention, et aujourd'hui revenu, et nous, sans concertation, puisqu'on a eu une révision du PPR dans l'urgence, suite à une association qui avait demandé. Parce qu'on revoit 50 couloirs, 27 couloirs ont été revus. La révision de ces 27 couloirs a fait qu'on a augmenté de 20% le zonage de la vallée de Chamonix. Et nous est revenu, sans qu'on soit informé, sans qu'on le sache, nous est revenu cette zone bleu ciel. Cette zone bleu ciel qui est maintenant une zone dans la zone réglementaire, qui est opposable au permis de conduire PLU. Donc maintenant, on doit en tenir compte avec des conséquences que ça va avoir, parce qu'il y a le zonage, mais il y a aussi derrière le règlement. Et le règlement qui va arriver n'est pas triste, parce que cette zone bleue va obliger les bâtiments qui accueillent du public à avoir une zone de confinement. Donc un hôtel, les hôtels qui sont dans les zones bleues au centre-ville de Chamonix vont avoir l'obligation d'avoir des zones de confinement. On ne pourra pas construire des bâtiments qui peuvent servir aux services, et qui peuvent servir dans l'ordre de gestion de crise. Donc ça va nous poser un véritable problème par rapport... Et même si on est conscient des risques, et si on sait très très bien, on est tout à fait d'accord pour qu'il y ait un zonage et qu'on applique ce zonage, là ça va être un vrai problème par rapport à la gestion de notre vallée. Parce que quand on sait que ces zones bleues, la pression qui a été retenue, c'est 1 kilopascal. Vous voyez ce que ça représente, 1 kilopascal, c'est quasiment rien. Et on va être obligé de tenir compte de ça par rapport au bâtiment et par rapport à l'urbanisme de notre vallée. Donc, voilà, on a 124 couloirs qui sont identifiés, 78 impacts des habitations, 40 les routes. Vous voyez un petit peu le nombre de bâtiments qui sont en zone fort, moyen et AMV, hein, c'est l'avalanche... maximum vraisemblable, pardon, j'avais un trou. Et puis l'augmentation par cette expertise qui nous est arrivée, qui a été faite très rapidement par 4 experts qui sont incontestables, puisque ce sont certainement les meilleurs experts au monde, hein, ces 4 experts, mais on en remettra 4 autres de plus qui retrouveront encore une augmentation par rapport à ce qui existe, parce qu'ils ont tenu compte des bassins de retenue de neige. Pas au maximum, donc on peut encore envisager une plus grande augmentation de notre PPR. Donc notre PCS, Alors, 99 obligations après d'avoir un PCS, la loi, on savait que la loi allait nous l'imposer à partir du moment où on a un PPR, un PPRA ou un PPRI, on a l'obligation d'avoir un PCS. Donc ce PCS, nous avons commencé à le travailler en 2001, pour quand la loi est arrivée en 2004-2005, on est déjà ce PCS. Donc c'est l'information des propriétaires. Alors, vous voyez le nombre de bâtiments qu'il y a, c'est autant de courriers que l'on fait par an à ces personnes. On a maintenant un automate d'alerte dont je parlerai un petit peu plus loin, un plan d'alerte et d'évacuation et des consignes de sécurité. Donc ce que l'on fait et ce que l'on fait, on essaye de faire au maximum, c'est d'informer la population, informer la population vivant dans la vallée de Chamonix, mais aussi ceux qui viennent dans la vallée de Chamonix en touriste. On essaye de faire un maximum d'informations. J'en parlais un petit peu de l'information que l'on donne. Donc voilà, tout à l'heure, je vous ai fait voir le paravalanche, la lame déflectrice qui est en haut du paravalanche, qui avait été emportée. Là, maintenant, on a modifié ce paravalanche. Il a été énormément agrandi, puisqu'on a doublé. Maintenant, on est 1 800 000 mètres cubes qui peut être pris dans ce paravalanche. Ça représente à peu près 12 à 13 millions pour les collectivités de financement. C'est un énorme paravalanche, et certainement un des plus gros d'Europe, et peut-être un des plus gros qui existe. Donc ce paravalanche, comme on l'a expliqué tout à l'heure par rapport au zonage, ce paravalanche est transparent, c'est-à-dire qu'on ne considère pas par rapport aux bâtiments qui sont en dessous que la modification du zonage puisse être faite. Donc on est en zone rouge en dessous, même en ayant un paravalanche aussi important dessus. Alors on a tout un tas de mesures de protection, mais ça c'est tout le monde a ses mesures de protection à travers le PIGAD, des déclenchements préventifs sur les routes, et puis surtout le maintien boisé des forêts. Donc on a besoin des forêts en termes de protection. Donc notre PCS, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, c'est... Je vais expliquer, on peut avancer. Donc ça c'est toute la mise en place du PCS. La commission de sécurité travaille avec la surveillance, mais ça tout le monde le fait aussi, avec les pisteurs Météo France. Mais ce qu'on a en plus, c'est que maintenant on ne peut plus travailler d'une méthode empirique, c'est-à-dire penser que ça pourrait être à risque, la période pourrait être à risque. Maintenant on travaille avec une société suisse qui s'appelle Météorisque et qui donne deux fois par jour, qui nous donne les informations sur le manteau neigeux, sur le risque d'avalanche, en plus de Météo France, du risque annoncé par Météo France. Donc il y a un croisement des informations, on essaye d'avoir les meilleures informations possibles pour la prise de décision. Voilà la commission de sécurité, donc deux commissions de sécurité, une commission restreinte qui concerne à peu près entre 25 et 30 personnes, et une commission plénière qui est à peu près 70 personnes qu'on réunit en début de saison et qu'on réunit dans des périodes de crise quand véritablement il y a un problème dans la vallée. La commission restreinte vous paraît peut-être un petit peu importante, mais c'est un choix que l'on fait. Plutôt que d'informer les gens au coup par coup, on préfère que les gens soient tous là dans la prise de décision. On sort un compte-rendu de la réunion tout de suite après, chacun valide ce qu'il a dit dans la réunion, et on sort le compte-rendu immédiatement derrière, c'est-à-dire que chacun part avec ce qu'il doit faire tout de suite derrière. Donc voilà, c'est les missions et les outils qu'on peut avoir pour travailler dans le cadre de cette commission de sécurité. Pour faire de l'information, on a le DICRIM, ça c'est l'obligation aussi que l'on a. Quand on a un PCS, on a l'obligation d'avoir un DICRIM. Ce DICRIM est distribué à toute la population, tous les gens l'ont, et on le réédite cette année, on va le rééditer cette année, on va le renvoyer à la population, on le réédite tous les 4-5 ans à peu près. Donc on remet au bout du jour ce qu'on a fait, comment on a avancé, ce que l'on a mis en place. Voilà, c'est le plan d'alerte et d'évacuation. C'est-à-dire que ce papier-là, toutes les personnes qui sont dans des zones, enfin tous les bâtiments qui sont dans des zones à risque, les propriétaires ont l'obligation d'afficher ce risque et de le mettre dans leur bâtiment, dans leur appartement ou studio qu'ils louent ou qu'ils habitent. Ils ont l'obligation d'avoir ça. C'est tout le secteur qui est à risque, qui est délimité, et puis les itinéraires qu'ils doivent prendre s'ils doivent aller dans un endroit confiné pour des regroupements. Alors ça, c'est Julie qui fait ce travail-là, hein, c'est un travail énorme, et qui à chaque fois elle réadapte par rapport à notre connaissance des dangers. Alors ça, c'est l'automate d'alerte que l'on a depuis 3-4 ans, maintenant qu'on a fait évoluer, il y a 50 ans, 2000, ah non, le temps passe vite, 2008. Donc ça, c'est un automate d'alerte qui nous permet, par zone, d'informer les gens qu'il y a des risques. On fait beaucoup de pré-alerte, on envoie beaucoup de messages de pré-alerte en disant attention, vous êtes en période à risque, organisez-vous, prenez tous les moyens par rapport à la situation qui pourrait évoluer. Donc cet automate d'alerte marche très très bien. On a même maintenant un système qui nous permet à des gens qui arrivent dans un appartement qu'ils vont louer, d'envoyer leur numéro de téléphone à la mairie de Chamonix. On les informe comme toute autre personne. Donc ils disent je suis là une semaine, et notre automate d'alerte gère cette situation-là. Donc voilà, ça c'est le nombre de campagnes que l'on a fait l'hiver dernier. Vous voyez, on n'a pas eu trop de neige, on a eu quasiment une ou deux commissions de sécurité. Et d'autres fois, c'est 12, 15 commissions de sécurité, d'autres hivers. Là, c'était 6 commissions de sécurité, donc très très peu de temps. Tout à l'heure, on parlait de l'isolement. Quand on voit Col des Montets fermé 10 jours, c'est-à-dire qu'on isole le village de Valorcine pendant 10 jours. Pendant 10 jours dans l'hiver, le village de Valorcine est isolé. On a maintenant un tunnel dans lequel ils peuvent passer, mais ça pose problème. Et là aussi, la population, c'est compliqué à expliquer, mais les gens comprennent quand même que c'est pour leur sécurité aussi qu'on ferme ce col. Voilà, donc Chamonix, c'est un laboratoire du risque. Hein, je vous le disais tout à l'heure, pour le PPR, pour le zonage, ça l'est pour d'autres choses aussi. Donc nous, on a une véritable responsabilité, c'est faire de l'information. De toute façon, on n'a plus le choix aujourd'hui. On a l'obligation de faire cette information. Si on ne veut pas la faire, de toute manière, les journalistes sont là pour nous obliger à le faire. Il y a Facebook, il y a tout un tas de choses qui... Donc autant que ce soit nous qui le fassions, on le fera certainement mieux que d'autres. Donc on essaye de faire beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de reportages qui sont faits sur Chamonix par rapport à ces risques. À chaque fois, on répond aux journalistes, on est disponible. Après, on se fait piéger, mais c'est notre faute si on se fait piéger, c'est pas la faute du journaliste. C'est à nous de gérer ça et on essaye de le gérer le mieux possible. Voilà j'ai essayé d'aller assez vite dans l'explication que j'ai donnée de la situation de Chamonix et de sa gestion du risque. Je vous remercie.
Merci Jean-Louis Vergier. Est-ce que ça suscite des interrogations dans la salle? Est-ce que vous avez des questions déjà ou pas? Stéphane.
Oui, bonjour Jean-Louis. Par rapport au travail des experts qui a été fait donc, pour cette nouvelle version du PPR.
C'est BBCM, c'est Bolognésie.
Oui. Est-ce que ça a été l'occasion pour eux de définir peut-être un peu plus que ce n'avait été fait avant dans l'ancien PPR, les scénarios de risque pour ces fameuses zones jaunes, ces fameux AMV, de manière à ce que les élus et les habitants comprennent un peu mieux à quoi correspondent ces grandes zones qui couvrent apparemment des milliers de... des centaines d'habitations. Vous parliez tout à l'heure de pression d'un kilopascal, c'est-à-dire quasiment rien. Est-ce qu'on a ça partout? Est-ce qu'à certains endroits, au contraire, les pressions peuvent être beaucoup plus élevées? Donc, est-ce que les gens savent à peu près à quoi s'attendre? Et du coup, les pièces de confinement, est-ce qu'ils comprennent aussi dans quel cas elles peuvent être utilisées?
Alors, on est en révision du PPR, ouais. Puisque le préfet vient de le mettre en révision. On va avoir l'enquête publique qui va arriver. Donc, on essaye de faire de l'information le maximum auprès de la population pour qu'ils viennent répondre à cette enquête publique. Pour l'instant, non, on ne nous a rien donné. L'État affiche le risque et nous, on l'applique. C'est tout. Aujourd'hui, si on en est là, on va faire des exercices, on va mettre en place tout un tas de moyens, mais on va se retrouver dans une situation assez compliquée à expliquer à la population. Les gens viennent se plaindre tous les jours chez Julie parce qu'ils ne comprennent pas que leur bâtiment, d'un seul coup, soit transformé. En plus, quand on a travaillé avec le RTM de 2000, 2002, jusqu'à 2010. C'est Jérôme Liévois qui a fait le PPR, avec qui on a travaillé d'une façon exceptionnelle, qui a fait un très bon PPR, même si des fois on n'était pas d'accord, mais ça, ça fait partie de la discussion. Ça a été environ 60 réunions de demi-journée pour faire ce PPR, un truc historique, la carte des aléas, la carte réglementaire. Moi, j'étais contre les zones jaunes, parce que je savais que les zones jaunes allaient évoluer, elles ont évolué. Donc non, aujourd'hui, on est dans l'enquête publique, on n'est pas plus loin que ça. J'ai eu des discussions avec Polonesi, puisque c'était lui qui était responsable de la mise en place de ce nouveau PPR.
À vous écouter, donc l'affichage du risque concernant ces zones jaunes, ce sont juste des enveloppes de couleurs, et on ne sait pas tellement ce qui se cache derrière.
Ah ben c'est bien placé pour le savoir, le règlement va arriver, donc ce règlement...
Oui, non, mais les contraintes, c'est une chose, mais comprendre pourquoi il y a ces contraintes, et donc comprendre le risque, le scénario. Pourquoi on est allé jusque-là? Pourquoi on a tracé ces enveloppes? Est-ce que c'est juste parce que vous voulez une précaution ou est-ce que ça recèle une réalité?
Aujourd'hui, on n'en est pas là. Nous, on demande qu'il y ait des réunions avec la population. Donc, la direction de la DDT va venir expliquer un petit peu ça à la population. Et nous, on se mettra au fond de la salle, bien évidemment. Bien évidemment, parce que nous, on n'a pas été... la population nous responsabilise toujours par rapport à cette situation. Mais nous, on n'a aucune responsabilité par rapport à ça. On nous l'a imposé.
Là, c'est presque un petit peu un recul en arrière par rapport à la façon de faire le premier PPR. Vous sentez un peu dépossédé, là.
Vous savez très très bien pourquoi c'est venu. Hein. C'est venu suite à la pression d'une association. La ministre, le préfet de l'époque, pas le préfet d'aujourd'hui, parce que le préfet d'aujourd'hui nous soutient et nous aide, mais le préfet de l'époque, excusez l'expression, mais c'est dégonflé face à cette association. Et là, il a donné raison à l'association sans tenir compte de ce qu'on pouvait dire à l'époque.
Vous aviez déjà donné votre point de vue et donc il n'y avait plus besoin de le reprendre.
Je peux vous dire que je sais le dire quand il faut le dire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va poursuivre alors. Est-ce que peut-être, Julie, tu veux rajouter quelque chose ou...
Julie travaille beaucoup.
Énorme. Ça, on le sait, on a l'occasion, enfin on s'est déjà rencontré dans le cadre justement de la GIRN. On travaille beaucoup en réseau en fait, avec Amandine, mais aussi avec d'autres territoires voilà, qui travaillent comme nous, qui œuvrons, nous qui œuvrons pour essayer de faire avancer les choses dans cette gestion-là.
Elle va peut-être dire quelques mots, mais quand même dire que la vallée de Chamonix, je ne sais pas, vous dépendez de la vallée de Chamonix ou de la ville de Chamonix? Vous êtes passé en Comcom ou mairie de Chamonix? Donc la mairie de Chamonix a créé un poste pour gérer toute cette problématique. On a un poste à l'année qui gère toute la problématique risque naturel.
Bon, on ne souhaite pas. On va poursuivre. Alors, en termes de communication, on va rester sur cet aspect communication et information auprès des populations. Donc il y a en Maurienne un territoire qui a osé, qui a relevé un défi de communiquer positivement sur les risques naturels. Alors c'était pas gagné parce que communiquer sur ce sujet, ça peut faire peur et on n'ose pas forcément. Et la Haute-Maurienne s'est lancée dans cette aventure il y a quelques années. Et donc Marcel Favre représente la communauté de communes Haute-Maurienne-Vanoise qui a porté cette action et qui va nous expliquer un petit peu comment a été entreprise cette démarche, comment ils ont franchi le pas et après quoi on vous diffusera quand même les deux clips qui ont été réalisés. Donc il y a eu un clip hiver et un clip été de prévention vis-à-vis de la population. Donc je laisse la parole à Marcel Favre, oui, maire de Brabant, pardon.
Bonjour. Donc communiquer positivement sur la prévention des risques, ce n'est pas un sujet très facile. En plus, au sein d'une communauté de communes, celle de Haute-Maurienne-Vanoise, il y a quand même 7 villages, 7 communes concernées, ce n'est pas très marrant. Donc le sujet au début n'était pas facile. Donc quand la communauté de communes de Haute-Maurienne a été choisie comme site pilote pour faire partir du GIRN en 2010, c'est ça, je crois que ça a démarré en 2010. On ne savait pas trop, un petit peu comme nos amis de Valoir, savoir dans quelle direction on allait aller. Donc on a fait un diagnostic du territoire. Et ce diagnostic nous a prouvé, nous a montré qu'il y avait un manque évident de communication, un manque évident d'information auprès de la population. La population touristique, bien sûr, mais également la population autochtone, les habitants, qui, à force de faire, menaient des actions à risque, ne serait-ce qu'auprès des ruisseaux ou dans les couloirs d'avalanche. Donc, on a créé un groupe de travail avec, bien entendu, les élus, l'office de tourisme, tous les socioprofessionnels, les services de sécurité, pour plancher donc sur le sujet. Et ils sont arrivés à la conclusion, ils nous ont donné un moyen pour lancer donc un plan d'information préventif. Hein, on est bien dans une prévention, on n'est pas là pour gérer l'information au moment de la crise. Ça, c'est l'affaire des plans communaux de sauvegarde. Nous, on essaye de faire passer de l'information avant la crise et de l'information positive. Parce que, bon, vous connaissez tous, on a parlé tout à l'heure de la Maurienne, ce serait très facile de faire un clip vidéo sur tout ce qu'on a vu, les avalanches, les inondations, de montrer des maisons emportées ou des ponts. Sauf que si le touriste voit ça, on a de grandes chances, peut-être qu'il ira dans la vallée voisine de mon collègue, mais il aura tendance à se détourner, et ces images vont l'impressionner et on risque de le faire fuir. Donc ces clips vidéo qu'on a réalisés, avec bien entendu une agence de communication, sont un peu un consensus entre la partie sécurité et la partie connaissance et mise en valeur de notre patrimoine, puisqu'on en a un peu, je ne dis pas profité, mais ça a été aussi un petit peu l'objet, c'est que ces clips parlent de sécurité, mais en même temps, ils mettent en valeur notre pays, la Maurienne. On a choisi pour cela un compteur de Lance Villard, hein, donc vous allez le voir, vous allez l'entendre. On l'a volontairement choisi parce qu'il est, il est très calme et que avec lui les mots passent bien. On voulait surtout pas effaroucher les touristes, et puis on voulait quand même faire comprendre aux gens des villages que ben, on vit en montagne, la montagne c'est des risques et il faut en tenir compte, il faut vivre avec. Sur la Haute-Maurienne, on a beaucoup de ruisseaux en particulier. On a également aussi beaucoup de prises d'eau, d'EDF. Donc il y a beaucoup de lâchers d'eau. J'ai souvent vu en tant que maire, moi, des camping-cars ou des campeurs établir leur campement au bord des ruisseaux, les soirs d'orage par exemple, sans aucun souci. Et passent une nuit parfaite. Mais on voit vraiment les gens, les panneaux, ils n'en tiennent pas compte. Donc on a essayé d'aller un peu plus loin. Et pour l'instant, ces clips vidéo, ils viennent juste d'être réalisés. Ils seront donc diffusés dans les OTI, dans les commerces, dans les socioprofessionnels, partout où on a affaire au public, et puis à tous les habitants de la communauté commune de Haute-Maurienne-Vanoise. Je pense qu'on va peut-être les voir tous les deux,
parce qu'il y en a
un d'hiver et un d'été.
Voilà, ça vous parlera mieux.
Haute-Maurienne, j'étais bûcheron, maire, directeur d'école de ski, aujourd'hui compteur. Mais avant tout, je suis un amoureux de la nature et de cette haute vallée. Ici, je ne me lasse jamais de marcher de longues heures pour m'imprégner de ces merveilleux paysages. En montagne, la beauté est partout. Le risque aussi est partout. En Haute-Maurienne, on a décidé de se mobiliser pour sensibiliser chacun au danger.
En montagne, il y a des aléas naturels vis-à-vis desquels nous sommes vulnérables. Il faut donc rester vigilant pour ne pas se mettre en danger ni mettre les autres en danger. Par inconscience, on est exposé à des risques comme la montée soudaine des eaux dans les rivières. Il peut pleuvoir en bas de vallée, faiblement, alors que sur les sommets, la précipitation peut être beaucoup plus intense et donc conduire à des crues brutales. Il faut donc éviter de se stationner et de faire du camping sauvage le long des rivières. Après les épisodes pluvieux, on est donc exposé à des risques comme les glissades, les éboulements et les chutes de pierres. Afin d'être moins vulnérable, il est important d'aller chercher des informations auprès des professionnels comme les offices du tourisme, les guides et s'informer au mieux de la météo. C'est pas toujours évident d'identifier un risque. Si un panneau d'interdiction est là, c'est que les services concernés ont identifié un danger.
L'Haute Maurienne est un endroit magique. C'est vrai qu'il y a des risques en haut. Mais prendre en compte ces dangers, c'est éviter de s'exposer inutilement. Et cela, pour tout le monde, y compris pour ceux qui habitent ici. Il faut savoir renoncer quand les conditions ne sont pas là. La montagne, elle, sera toujours là. Elle, accueillante, est aussi prévenante. C'est là où il y a une tournée.
Hiver maintenant. VLC, c'est pas mal.
Il n'y a pas de son.
Ici, tout est bon. Mais il y a des aléas naturels auxquels il faut prêter attention. En Haute-Maurienne, on a décidé de se mobiliser pour sensibiliser chacun aux dangers qui peuvent se produire dans ce si bel environnement.
Il n'y a plus de risque naturel en montagne en hiver, le plus important reste l'avalanche. Pour qu'une avalanche se produise, le principe est simple. Il suffit d'une pente inclinée à plus de 30 degrés, chargée de neige. Dans ces conditions, même une petite avalanche peut être menaçante. En revanche, il y a aussi les grosses avalanches, qui, elles, ne concernent que des secteurs précis et sont connues et répertoriées. Ce sont ces zones qui vont dicter les endroits où l'on peut construire, où on ne peut pas construire, etc. Quand on part en randonnée, que ce soit en raquette ou en ski, il est nécessaire de s'informer sur le risque de l'avalanche. Il est tout à fait possible de s'adresser à des professionnels que l'on va trouver par exemple dans les bureaux des guides ou dans les offices de tourisme. À certains moments, à certains endroits, il y a une signalisation particulière qui interdit d'accès. Si c'est en place, c'est pas par hasard parce qu'il y a un danger particulier. Donc on vous demande de respecter ces indications.
Dans le doute, mieux vaut s'abstenir. La montagne, elle sera toujours là. Belle, accueillante, mais aussi prévenante. C'est la route morienne qu'on aime.
La vidéo est de meilleure qualité. Je ne sais pas ce qui se passait. Donc voilà un exemple d'outil de communication qui peut être réalisé. Donc c'est un type d'outil qui peut être facilement aussi reproductible sur les territoires. Chacun peut se l'approprier à sa manière. Voilà, je ne sais pas, Marcel Favre, si vous avez quelque chose à rajouter
oui,
par rapport à ça.
Une petite chose, c'est que bon, déjà ces deux clips vidéo nous ont permis de travailler ensemble à cette commune. C'est vrai que le chemin n'est pas énorme, mais quand on prend les différences de nos 7 communes au sein de l'Haute-Maurienne, entre celles qui ont des grandes stations de ski alpin, celles de ski nordique, d'autres qui travaillent plus l'été, d'autres c'est plus l'hiver, il a fallu faire un consensus entre tout ça, entre les élus, entre les socioprofessionnels, c'est pas simple. La deuxième, vous l'avez vu dans le clip, on ne donne pas de conseils véritables. On dit aux gens, il y a des risques, adressez-vous aux professionnels, allez chercher l'information chez les professionnels, c'est eux qui sont à même de vous dire si vous pouvez faire une sortie en raquette ou en montagne. C'est eux qui doivent gérer ce problème de risque. Il est difficile, déjà dans un clip de 3 minutes, de dire toutes ces choses. Donc on n'a pas voulu non plus mettre en avant cette partie professionnelle. Et puis, bon, on a essayé, comme Marjorie a dit, de parler de la prévention des risques. C'est vrai que c'est court, hein, c'est pas quelque chose d'énorme comme on pourrait s'y attendre. Pour l'instant, on en parle. Ce clip va être diffusé, on l'espère, le plus largement possible. On aura certainement un retour d'expérience. Et puis, donc là, on verra, on fera peut-être un bilan pour voir les gens, comment ils réagissent avec ça, que ce soit des habitants ou des touristes.
Oui, et puis là, c'est vrai que la Haute-Marine vanoise, enfin les communes en tout cas, ont souhaité avoir un rôle de bienveillant, en fait. Les communes souffrent assez facilement de l'image négative qu'on communique dès qu'il y a un incident. Et là, les communes de Haute-Marine se sont dit, ben, pourquoi pas prendre le taureau par les cornes et finalement parler positivement et avoir ce rôle bienveillant vis-à-vis des populations. Et je pense que ces clips transpirent bien cet aspect-là. Et voilà, je pense que voilà, c'est un assez beau résultat, en tout cas par rapport au travail qui a été mené, un travail vraiment très collaboratif, qui a impliqué beaucoup d'acteurs locaux, voilà, les services tout ce qui est PGHM, EDF, je vais en citer quelques-uns, le conseil général, les élus bien évidemment, les sociopros, les directeurs de stations, les professionnels de la montagne qui ont bien voulu participer, parce que c'est tout un travail derrière sur le contenu, il y a le travail sur la forme, comment communiquer au mieux via les images, mais aussi qu'est-ce qu'on peut dire dedans, voilà, sans choquer, sans aller trop loin non plus, mais être suffisamment convaincant quand même. Donc voilà, c'est un gros travail partenarial et ça a été voilà. Quand même un succès, en tout cas d'un point de vue technique, voilà, c'est déjà pas mal. Je sais pas du coup si ça, on va peut-être lancer voilà des questions, débats sur cet aspect communication.
Bonjour, Grégory Garcia, Société Jean de Rivière. Je voulais savoir quelle était la cible de cette campagne d'information. Qui était la cible de cette campagne et combien a coûté la publicité?
Alors, pour les détails techniques, la population ciblée, c'est la population locale et touristique, les deux. Les moyens de diffusion, alors je vais les rappeler, c'est diffusé dans les salles de cinéma avant projection des films. C'est diffusé via les sites internet donc de la CCHNB, de l'Office de tourisme intercommunal, du syndicat du Pays de Maurienne, du Parn. Voilà, donc c'est assez largement diffusé via les réseaux sociaux aussi. Ça vise, alors là c'est sur le point d'être diffusé aussi dans les écrans chez les commerçants de Haute-Maurienne. J'en oublie, oui, et ça sera pour le clip hiver diffusé dans les stations. Voilà, donc population voilà, locale et touristique. Et pour ce qui concerne le coût global entre la charte graphique et la réalisation du clip, il faut compter une enveloppe de 10 000 euros. Voilà. Environ. 8 000 et des poussières pour le clip et voilà, autour de 2 000 euros pour la charte graphique.
Oui, David, donc élu à Saint-Jean-d'Arve. J'ai eu travaillé avec la Chamoniarde au ministère des Sports pour la campagne Information Sécurité Sport de Montagne. Et c'est des questions qui sont posées à nous, justement, sur la campagne qui fait peur ou la campagne qui fait rigoler. Donc la campagne nationale de la Chamoniarde fait rigoler, et c'est très bien, avec le Yeti, etc. C'est super, mais ça pose le problème. Et j'ai une autre casquette, je suis accompagnateur en montagne, j'en ai encore une autre, je suis aussi juriste. Et j'ai exercé en tant que juriste. Et quand on dit aller en office de tourisme, alors je ne veux pas casser la démarche, hein, comprenez bien, mais je veux simplement aller au bout de cette logique. C'est très bien d'avoir fait cette démarche, c'est très bien de l'avoir menée en interco, ça serait très bien de la mener peut-être au niveau des vallées de montagne en général, parce que fondamentalement nous avons à peu près les mêmes touristes, ils sont tous plus ou moins déconnectés de la réalité, et nous avons aussi les mêmes gens de montagne
qui sont aussi déconnectés de la réalité de ce que sont leurs propres touristes. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du fait qu'ils ne savent pas. Et nous-mêmes, la question est, savons-nous où est-ce qu'on est totalement blindé par accoutumance à une prise de risque, y compris la conduite sur neige, même si on a 4 neiges, etc. Donc on peut décliner le risque et c'est approprié ou pas. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que quand on dit aller en office de tourisme ou les professionnels de la montagne, moi, j'ai été président d'office de tourisme, je suis délégué tourisme dans ma commune. La question que je vous pose, c'est quels moyens j'ai pour former mon personnel d'office de tourisme, en particulier mes saisonniers, qui vont accueillir des Néerlandais, qui vont poser 2-3 questions, et mon agent d'office de tourisme sera pris le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, entre faire plaisir, car on doit toujours apporter une réponse, et donner une réponse. Et la bonne réponse. Et la bonne réponse, elle est technique. Duclos, je veux dire, c'est très bien son intervention, mais les choses sont bien plus compliquées que ça, on le sait tous. Le problème, c'est, là, on ouvre une boîte de Pandore. Première partie, le salarié d'office de tourisme et le saisonnier qui n'est pas forcément montagnard et surtout pas technicien de la montagne. On ne peut pas mettre un gendarme du PG ou un CRS de la Compagnie des Alpes devant chaque office de tourisme ou devant chaque mairie pour donner l'information régalienne. Parce qu'attention, quand on va au deuxième degré et qu'on dit « Adressez-vous aux professionnels de la montagne ». Moi, quand j'ai fait les permanences d'accueil à l'office de tourisme, je suis professionnel de la montagne. Je réponds quoi ? Quand je sais que c'est pas possible, je dis c'est pas possible, parce que je sais qu'en tant que professionnel de la montagne, si jamais il y a un accident, on ira me chercher des poux dans la tête. On ira me dire, mais vous savez, donc vous devez dire. Mais en même temps, je suis un agent du tourisme, donc je dis quoi ? Donc j'oriente vers les activités encadrées, avec un accompagnateur, un guide, un moniteur de ski pour le ski de rando, etc. Et on me dit, mais attends, tu fais la pub de tes petits camarades professionnels. Il est où ton devoir d'élu ? Là, t'es dans des espaces mouvants. C'est très compliqué de faire de l'information. Donc, c'est très bien, la démarche est extrêmement louable. La campagne de la Chamonnière, Bruxelles, toutes les campagnes de sécurité de manière générale, c'est fait dans tel ou tel département, mais il faut aussi se poser la question. Concrètement, derrière, les gens que l'on pointe et que l'on flèche dans ces sujets, dans ces clips, les professionnels et les OT, entre autres, sont-ils formés et savent-ils où est-ce qu'ils mettent les pieds ? Quelle est leur marge d'appréciation pour ne pas eux-mêmes aller au pénal en ayant délivré une information pour faire plaisir ? Aujourd'hui, risque 4. Risque 4, on le sait tous. Le PG est là, je veux dire, il y a risque 4 et risque 4. Ça dépend où on va. Donc on ne va pas fliquer les gens. Donc on fait une interdiction par principe. Donc on déçoit. Donc. C'est une manière générale d'apprécier le risque ou de ne pas vouloir le voir. Mais l'affaire est complexe, mais il faut y répondre. Donc c'est une très bonne initiative. Il faut aller plus loin.
C'est déjà mettre les populations face à leurs responsabilités aussi, quoi. C'est déjà une première approche, faire la démarche d'aller trouver l'information et de ne pas partir novice n'importe où et n'importe comment. Donc effectivement, les offices de tourisme ne sont pas forcément formés à répondre à toutes les questions. Néanmoins, elles peuvent répondre en partie à certaines questions. Pour ceux qui, voilà, on ne parle pas des amateurs de haute montagne, on parle des pratiquants de la montagne lambda qui peuvent se poser une question toute simple et qui n'auront pas forcément eu l'idée ou la démarche de faire, voilà. Ces clips, c'est aussi mettre les gens face à leurs responsabilités et les emmener à trouver l'information où elle est susceptible de s'y trouver. Alors effectivement, il y a du chemin à faire, tout le monde n'est pas formé pour répondre à ça, mais c'est déjà une première étape.
Oui, juste quelques mots. C'est vraiment un problème qu'on se pose, et quelle campagne doit-on faire ? La Chamonnière, dans une période, on avait fait « L'avalanche tue ». On faisait un film, et on disait « L'avalanche tue ». Après, on a fait le choix de faire un peu plus comique. Mais je crois que notre devoir, c'est de faire quelque chose. Et ce qui a été fait, moi, je trouve ça très, très intelligent et très bien. Je crois qu'on va le reproduire. Parler du risque naturel de cette façon-là, avec des gens posés, tranquilles, qui connaissent la montagne, ça incite les gens à réfléchir. On a des gens des villes qui arrivent, qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à notre vie, ils ne comprennent rien à notre culture. Et c'est normal. Nous, quand on est dans le métro, on n'est plus dans la même culture que c'était la nôtre. Donc, mais on a l'obligation de faire quelque chose. Alors, c'est vrai. Sur l'aspect juridique, quand le directeur de l'Office du tourisme prend cette responsabilité, je crois qu'il ne faut pas qu'il la prenne. Il y a les bureaux des guides, les personnes des offices du tourisme disent allez voir au bureau des guides, allez voir dans tel organisme. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut avancer là-dessus, il faut faire l'information.
De toute façon, bon, les deux clips, vous avez vu, sont à caractère généraux. Donc on peut pas, on n'aurait pas pu, nous de même, dire eh ben, dans telle situation, on fait telle chose. Et que les clips existent ou pas, les offices de tourisme ont quand même cette responsabilité. Les personnes viennent les voir, leur demandent effectivement s'ils peuvent aller à l'hôtel, comment est la météo, où est-ce qu'ils peuvent aller. Et là déjà, ils aiguillent le touriste. Après, les professionnels, donc vous citez le cas des risques d'avalanche où vous pensez que malgré le risque 4, vous allez en montagne, ça c'est un choix personnel du professionnel. Moi je ne juge pas, chacun entre perdre des clients et puis les amener dans une situation à risque, bon, ils choisissent de l'amener. Après, ça c'est chaque professionnel effectivement qui va, ça dépend aussi des clients qui amènera peut-être plus facilement en zone problématique, d'autres qui ne connaissent pas, qui sont en chaussure basse par exemple. Mais ça, c'est bien le professionnel qui décidera au dernier moment. Et c'est ce qu'on veut par l'intermédiaire de ce clip.
Oui, d'accord. Excusez-moi d'insister là-dessus, ce sujet que je connais un peu.
Je parlais pas de la prise de risque du professionnel ou du pas professionnel. Je disais simplement que quand on a une information qui vient d'un service, on peut vous parler de météorisme, Météo France, n'importe quel élément qui est porté à la connaissance du public, y compris un plan de vigilance, d'ailleurs, c'est le premier, on n'a pas de commentaire à faire sur une information d'un niveau de risque quel qu'il soit, sur un bulletin de prévision. Seul le maire a le pouvoir d'interdire. On se pose la question, est-ce qu'on doit interdire ce chemin rural qui est interdit à la circulation publique des véhicules hors neige et qui n'est donc pas déneigé et qui est donc de fait fermé au grand public, mais fermé aussi aux gens locaux, aux ayants droit, qui eux ont le droit d'y aller, de par le code. On juge que c'est peut-être mal perçu que de fermer un chemin qui mène accès à des exploitations un peu lointaines, des débuts d'alpage, etc., à des périodes charnières, hein, c'est le début de l'hiver, c'est les premières neiges, etc., ou les avalanches de fonte, de purge, le mois de mai, par exemple. C'est difficile à prendre cette décision pour un maire. Déjà pour un maire c'est difficile, je dirais pour un directeur d'office de tourisme c'est impossible de prendre une décision, de donner une mission d'interprétation de consignes venant d'institutions reconnues, Météo France par exemple ou d'autres, en disant non mais vous appréciez localement, en fonction, c'est ce que vous avez dit monsieur le maire, et je le connais ce raisonnement, en fonction de qui à qui l'on, du niveau de compétence et de connaissance de la personne qui s'engage dans une activité de pleine nature, en fonction de son look, de sa manière de se comporter, on pourrait supposer qu'elle est capable de comprendre ceci ou cela, ou elle a des prérequis, ou elle a des acquis, déjà. C'est très, très aléatoire. C'est pour ça que je dirais attention à toute interprétation faite par des personnels qui n'ont pas la formation pour, et quant aux gens qui sont formés pour, j'en connais pas beaucoup, qui accepteraient de prendre sur eux la responsabilité de dire « là tu peux pas ». Sauf à être avec eux. Mais quand on est avec des clients en tant que professionnel de montagne, guide, moniteur, accompagnateur, ou tout autre métier d'encadrement de sport de nature, on prend sa responsabilité. Et on sait que si on commet une faute, on peut aller nous chercher. Le procureur Albertville, il a une certaine réputation, et tant mieux qu'il ait cette réputation. Parce que nous sommes tous conscients de la responsabilité que nous avons. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est de l'information de gens qui vont en pratique autonome. Donc, il y a une limite à l'information. Ce n'est pas le cœur du sujet, on déborde, mais c'est un vrai point. Parce que l'hiver commence, comme tous les hivers qui commencent et tous les étés, et on va être confronté à plein de situations, de micro-situations, et on n'aura jamais la bonne réponse, parce que c'est un flou artistique, total. Merci.
D'autres remarques, d'autres questions? Non? On va peut-être conclure, alors. Alors, juste pour information, la GIRN se poursuit. La GIRN est reconduite pour une nouvelle programmation 2014-2020. Le syndicat du Pays de Maurienne, alors je parle pour la Maurienne, hein, pour le coup, le syndicat du Pays de Maurienne est là toujours en soutien aux communes qui souhaitent s'intégrer, s'investir en tout cas dans la gestion des risques. Alors n'hésitez pas, voilà, si vous avez des besoins, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, n'hésitez pas à contacter les services, la cellule risque et rivière du syndicat du Pays de Maurienne.
Pour information également, vous avez défilé dans PowerPoint un petit peu d'animation là, un lien vers le site du PARN, un lien qui, sur un site où il y a tout un travail de capitalisation qui a été fait, un travail qui a été fait de capitalisation sur tout ce qui s'est passé dans le cadre de cette opération depuis ses débuts. Donc vous verrez toutes les expériences des différents sites avec les différentes actions qui ont été menées. Enfin, voilà, c'est un site qui est assez bien complet par rapport à ça. Donc si vous avez si vous avez des questions, en tout cas, et si vous souhaitez avoir des éléments de réponse par rapport à ça, vous pouvez aller consulter le site. Je vais passer...
Pour finir, juste pour la journée, on tient quand même à remercier donc, les financeurs qui nous ont permis de faire cette journée. Donc les deux régions, Rhône-Alpes et PACA. Donc on s'inscrit toujours dans le cadre des financements européens et régions. Et donc on remercie aussi CGET, donc, dont on a à peu près tous les logos. On avait tous les logos ici et tout depuis tout à l'heure. Voilà.
Et je vais laisser la parole à monsieur...
Juste une seconde, parce que je crois que les débats ont été bien riches et bien fournis. Donc je remercie vraiment tous les intervenants, et en particulier les élus, hein, qui nous ont bien intéressés par tout leur témoignage. On a bien vu toutes les difficultés des élus face à ce problème. En même temps, on a quand même cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de messages positifs et de messages d'espoir, hein, dans la coordination, dans la prise en amont de tous les problèmes. Et donc, je répète ce que vient de dire Marjorie, le syndicat de pays au nom duquel je parle, le syndicat de pays de Maurienne, est prêt à aider les élus qui s'engagent dans ces procédures. Et je pense qu'on souhaite élargir la GIRN à d'autres territoires que les deux qui ont été concernés jusqu'à maintenant. Voilà. Merci à tous. Et encore félicitations pour cet après-midi à tous les participants et à tous les intervenants.